cette différence, cette irréductibilité de l'homo economicus au sujet de droit entraîne, c'est également ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois, une modification importante quant à, comment dire, au problème du souverain et à l'exercice du pouvoir souverain. En effet, vis-à-vis de l'homo economicus, le souverain ne se trouve pas dans la même position que vis-à-vis du sujet de droit. Le sujet de droit peut bien, en effet, du moins dans certaines conceptions ou analyses, apparaître comme ce qui limite l'exercice du pouvoir souverain. En revanche, l'homo economicus, il ne se contente pas de limiter les pouvoirs du souverain. Jusqu'à un certain point, il le déchoit. Il le fait entrer en déchéance au nom de quoi ? D'un droit auquel le souverain ne devrait pas toucher. Non, c'est pas ça. Il le déchoit dans la mesure où il fait apparaître chez le souverain une incapacité essentielle, une incapacité majeure et centrale, une incapacité à dominer la totalité du domaine économique. Vis-à-vis du domaine économique dans son ensemble, vis-à-vis du champ économique, le souverain ne peut pas ne pas être aveugle. L'ensemble des processus économiques ne peuvent pas ne pas échapper à un regard qui se voudrait un regard central, totalisateur et surplombant. Disons encore, si vous voulez, que dans la conception classique du souverain, celle que l'on trouve au Moyen-Âge, au XVIIe siècle encore, il y avait au-dessus du souverain quelque chose qui était impénétrable, et c'était les desseins de Dieu, aussi absolus que soit, que fût un souverain, aussi marqué comme représentant de Dieu sur la terre, il y avait encore quelque chose qui lui échappait et qui était les desseins de la Providence, et il était enveloppé dans ce destin. Il y a maintenant au-dessous du souverain quelque chose qui ne lui échappe pas moins, et ce ne sont plus les desseins de la Providence et les voies de Dieu, ce sont les labyrinthes et méandres du champ économique. Et dans cette mesure-là, je crois que l'émergence de la notion d'homo economicus représente une sorte de défi politique à la conception traditionnelle, à la conception juridique, absolutiste ou pas d'ailleurs, du souverain. Bon, alors par rapport à cela, je crois qu'il y, avait, enfin en prenant les choses très abstraitement, très, très schématiquement, deux solutions possibles. On peut dire en effet, si l'homo economicus, si la pratique économique, si l'activité économique, si l'ensemble des processus de la production et de l'échange échappent au souverain, eh bien très bien, nous allons limiter en quelque sorte géographiquement la souveraineté du souverain et nous allons fixer à l'exercice de son pouvoir une sorte de frontière. Il pourra toucher à tout sauf au marché. Le marché comme, si vous voulez, port franc, espace libre dans l'espace général de la souveraineté. Première possibilité. La seconde possibilité, c'est celle que l'on trouve concrètement présentée et soutenue par les physiocrates. Ça consiste à dire ceci, c'est que, en effet, le souverain doit bien respecter le marché, mais respecter le marché ne veut pas dire qu'il y aura en quelque sorte dans l'espace de sa souveraineté une plage à laquelle il ne pourra pas toucher, dans laquelle il ne pourra pas pénétrer. Ça veut dire simplement, ça veut dire plutôt que vis-à-vis du marché, le souverain devra exercer un tout autre pouvoir que le pouvoir politique qu'il exerçait jusqu'à présent. Il devra être vis-à-vis du marché et vis-à-vis du processus économique, non pas tellement comme celui qui détient par un droit quelconque un pouvoir absolu de décision. Il devra se trouver vis-à-vis du marché comme un géomètre vis-à-vis des réalités géométriques, c'est-à-dire qu'il devra les reconnaître dans, par une évidence qui le placera dans une position à la fois de passivité par rapport à la nécessité intrinsèque du processus économique et en même temps de surveillance et en quelque sorte de contrôle, ou plutôt de constat total et perpétuel de ce processus. Autrement dit, le souverain, dans la perspective des physiocrates, devra, vis-à-vis du processus économique, passer de l'activité politique, si vous voulez, à la passivité théorique. il deviendra comme le géomètre de ce domaine économique qui fait partie de son champ, de souveraineté. Bon, la première solution, celle, si vous voulez, qui consiste à limiter l'activité du souverain à tout ce qui ne serait pas le marché, consiste au fond à maintenir la forme même de la raison gouvernementale, la forme même de la raison d'État, en opérant simplement une soustraction, celle de l'objet marché, ou du domaine marché, ou du domaine économique. La seconde solution, celle des physiocrates, consiste à bien maintenir toute l'étendue de la sphère d'activité de la gouvernementalité, maintenir toute l'étendue, mais modifier en son fond la nature même de l'activité gouvernementale, puisqu'on en change le coefficient, on en change l'index, et d'activité gouvernementale, elle devient passivité théorique, ou encore elle devient évidence. Bon, en fait, ni l'une ni l'autre des deux solutions ne pouvait être autre chose qu'une sorte de virtualité théorique et programmatique qui n'ont pas eu de suite réelle dans l'histoire. En fait, c'est toute une rééquilibration, tout un réaménagement de la raison gouvernementale qui s'est fait à partir de ce problème de l'homo economicus, de la spécificité de l'homo economicus et de son irréductibilité à la sphère du droit. Comment faire pour que le souverain ne renonce à aucun de ses domaines d'action, ou encore pour que le souverain ne se convertisse pas en géomètre de l'économie? Comment faire? La théorie juridique, celle justement des droits naturels, du contrat, etc., cette théorie juridique n'est pas capable de reprendre en compte ce problème et de résoudre la question de comment gouverner dans un espace de souveraineté peuplé par des sujets économiques, puisque précisément la théorie juridique, celle du sujet de droit, celle du droit naturel, celle des droits concédés par contrat, celle des délégations, etc., tout ceci ne s'ajuste pas et ne peut pas s'ajuster, comme j'ai essayé de vous montrer la dernière fois, à l'idée mécanique, à la désignation même et à la caractérisation de l'homo economicus. Ni le marché, par conséquent, en lui-même, dans sa mécanique propre, ni le tableau scientifique de Quesnay, ni la notion juridique de contrat ne peuvent définir, délimiter en quoi et comment les hommes économiques qui peuplent le champ de la souveraineté seront gouvernables, j'allais dire gouvernement, oui, gouvernables. La gouvernabilité ou la gouvernementabilité, pardonnez ces barbaries, de ces individus qui, en tant que sujet de droit, peuplent l'espace de la souveraineté, mais qui sont dans cet espace de souveraineté en même temps des hommes économiques. Leur gouvernementabilité ne peut être assurée et n'a pu être assurée effectivement que par l'émergence d'un nouvel objet, d'un nouveau domaine, d'un nouveau champ, qui est en quelque sorte le corrélatif de l'art de gouverner qui est en train de se bâtir à ce moment-là, en fonction de ce problème sujet de droit, sujet économique. Il faut un nouveau plan de référence, et ce nouveau plan de référence, il ne sera évidemment ni l'ensemble des sujets de droit, ni la série des marchands ou des sujets économiques ou des acteurs économiques. Ces individus qui sont bien toujours des sujets de droit, qui sont bien aussi des acteurs économiques, mais qui ne peuvent pas être gouvernementables à la fois comme les uns et en un des titres ou à l'autre, ils ne sont gouvernables que dans la mesure où on va pouvoir définir un nouvel ensemble dans, qui les enveloppera à la fois à titre de sujet de droit et à titre d'acteur économique, mais qui fera apparaître non pas simplement la liaison ou la combinaison des deux éléments, mais toute une série d'autres éléments par rapport auxquels l'aspect sujet de droit ou l'aspect sujet économique constitueront comme des aspects partiels, intégrables dans la mesure même où ils font partie d'un ensemble complexe, et c'est ce nouvel ensemble qui est, je crois, si vous voulez, caractéristique de l'art libéral de gouverner. Disons encore ceci, pour que la gouvernementalité puisse conserver son caractère global sur l'ensemble de l'espace de souveraineté, pour qu'elle n'ait pas non plus à se soumettre à une raison scientifique et économique qui ferait que le souverain devrait être ou un géomètre de l'économie ou un fonctionnaire de la science économique. Pour qu'on n'ait pas non plus à scinder l'art de gouverner en deux branches, l'art de gouverner économiquement et l'art de gouverner juridiquement. Bref, pour maintenir à la fois l'unité de l'art de gouverner, sa généralité sur l'ensemble de la sphère de souveraineté, pour que l'art de gouverner garde sa spécificité et son autonomie par rapport à les sciences économiques, pour répondre à ces trois questions, il faut donner à l'art de gouverner une référence, un domaine de référence, un champ de référence nouveau, une réalité nouvelle sur quoi s'exercera l'art de gouverner, et ce champ de référence nouveau, c'est, je crois, la société civile. La société civile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que c'est une tentative, la notion de société civile, l'analyse de la société civile, l'ensemble des objets ou éléments que l'on a fait apparaître dans le cadre de cette notion de société civile, tout cela, c'est en somme une tentative pour répondre à la question que je viens d'évoquer, comment gouverner, selon des règles de droit, un espace de souveraineté qui a, comme vous voudrez, le malheur ou l'avantage d'être peuplé par des sujets économiques. La société civile, ce n'est donc pas une idée philosophique. La société civile, c'est, je crois, un concept de technologie gouvernementale. Ou plutôt, c'est le corrélatif d'une technologie de gouvernement dont l'économie au sens de la mesure rationnelle, hein, technologie de gouvernement dont la mesure rationnelle doit s'indexer juridiquement à une économie entendue comme processus de production et d'échange. L'économie juridique d'une gouvernementalité indexée à l'économie économique. C'est cela le problème de la société civile, et je crois que la société civile, ce qu'on appellera d'ailleurs très vite ensuite la société, ce qu'on appelait à la fin du XVIIIe siècle la nation d'ailleurs, tout cela, eh bien, c'est ce qui va permettre à une pratique gouvernementale et à un art de gouverner, à une réflexion sur cet art de gouverner, donc à une technologie gouvernementale qui va lui permettre une auto-limitation qui n'enfreint ni les lois de l'économie, ni les principes du droit, qui n'enfreint non plus ni son exigence de généralité gouvernementale, ni la nécessité d'une omniprésence du gouvernement. Un gouvernement omniprésent, un gouvernement auquel rien n'échappe, un gouvernement qui obéit aux règles de droit, et un gouvernement qui pourtant respecte la spécificité de l'économie, ce sera un gouvernement qui gérera la société civile, qui gérera la nation, qui gérera la société, qui gérera le social. Bon. Donc je dirais ceci, c'est que l'homo economicus et la société civile, ce sont deux éléments indispensables. L'homo economicus, c'est, si vous voulez, le point abstrait, idéal et purement économique qui peuple la réalité dense, pleine et complexe de la société civile. Ou encore, la société civile, c'est l'ensemble concret à l'intérieur duquel il faut, pour pouvoir les gérer convenablement, replacer ces points idéaux que constituent les hommes économiques. Donc, homo economicus et société civile font partie du même ensemble, c'est l'ensemble de la technologie de la gouvernementalité libérale. Deux mots maintenant sur cette société civile et ce qui la caractérise. Je voudrais essayer de vous montrer, au moins comme ça en principe, parce qu'on arrive maintenant à la fin du cours, montrer, vous indiquer un peu comment, en principe, cette notion de société civile peut bien résoudre les problèmes que j'ai essayé tout à l'heure d'indiquer. Bon. Alors, sur la société civile, première remarque d'une banalité déplorable, à savoir que la notion même de société civile a complètement changé au cours du XVIIIe siècle, pratiquement jusqu'à la début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le terme de société civile désigne constamment, j'allais dire le contraire, quelque chose de très, très différent de ce qu'il va désigner par la suite. La société civile, c'est, par exemple chez Locke, justement, une société caractérisée par une structure juridico-politique. C'est la société, c'est l'ensemble des individus qui sont liés entre eux par un lien juridique et politique. dans cette mesure-là, dans cette acception-là, la notion de société civile n'est absolument pas distinguable de la notion de société politique. Dans le second traité du gouvernement de Locke, le chapitre 7 s'intitule « De la société politique ou de la société civile ». Bon, la société civile, c'est donc jusque-là toujours une société caractérisée par l'existence d'un lien juridique et politique. C'est à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que l'on voit apparaître, précisément à l'époque même où se posent les questions de l'économie politique et de la gouvernementalité des processus et des sujets économiques, c'est à partir de là que la notion de société civile va changer, sinon totalement, du moins de façon considérable, elle va être remaniée de fond en comble. En fait, bien sûr, dans toute cette seconde moitié du XVIIIe siècle, la notion de société civile va être présentée sous différents angles et avec différentes variantes. Pour simplifier les choses, je vais prendre le texte qui est tout de même le texte le plus fondamental, le texte quasi statutaire quant à la caractérisation de la société civile. C'est le fameux texte de Ferguson, traduit en français en 1783, sous le titre « Essai sur l'histoire de la société civile ». Ce texte, très proche de d'Adam Smith et de l'essai sur la richesse des nations, le mot « nation » d'ailleurs chez Adam Smith ayant à peu près le sens de société civile chez Ferguson, nous avons là, si vous voulez, le corrélatif politique, enfin le corrélatif en termes de société civile, de ce que Adam Smith étudiait en termes purement économiques. La société civile de Ferguson, c'est en effet, si vous voulez, l'élément concret, la globalité concrète à l'intérieur duquel fonctionnent ces hommes économiques que Adam Smith essayait d'étudier. Bon, cette société civile chez Ferguson, je voudrais la caractériser, relever trois ou quatre caractères essentiels. Premièrement, la société civile entendue comme constante historico-naturelle. Deuxièmement, la société civile comme principe de synthèse spontanée. Troisièmement, la société civile comme matrice permanente de pouvoir politique. Et quatrièmement, la société civile comme élément moteur de l'histoire. Bon. Premièrement, la société civile comme constante historico-naturelle. Pour Ferguson, en effet, la société civile est une donnée au-delà de laquelle il n'y a rien à chercher. Avant la société civile, rien n'existe, ou si quelque chose existe, dit Ferguson, c'est quelque chose qui est pour nous absolument inaccessible, tellement reculé dans le fond des âges, tellement en quelque sorte antérieur à ce qui fait l'humanité de l'homme, qu'il est impossible de savoir ce qui aurait bien pu se produire, ce qui aurait bien pu avoir lieu avant l'existence de la société civile. Autrement dit, il n'est pas utile de se poser la question de la non-société. Que cette non-société soit caractérisée en termes de solitude, d'isolement, comme s'il avait pu y avoir des hommes dispersés ainsi dans la nature et sans aucune union d'aucune sorte, sans aucun moyen de communiquer. Ou encore, que cette non-société soit caractérisée comme chez Hobbes sous la forme de la guerre perpétuelle ou la guerre de tous contre tous. De toute façon, solitude ou guerre de tous contre tous, tout ceci est à placer dans une sorte d'arrière-fond mythique qui ne sert en rien à l'analyse des phénomènes qui nous concernent. L'histoire humaine telle qu'elle a toujours, l'histoire humaine a toujours existé par groupe, dit Ferguson à la page 9 du premier volume de son histoire de la société civile. La société, à la page 20, il dit la société est aussi ancienne que l'individu. Et il serait tout aussi vain d'imaginer des hommes qui ne parlent pas entre eux que d'imaginer des hommes qui n'auraient pas de pieds ou pas de mains. Le langage, la communication et par conséquent un certain rapport perpétuel des hommes entre eux est absolument caractéristique de l'individu et de la société parce que l'individu et la société ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Bref, il n'est jamais venu un moment ou en tout cas il est inutile d'essayer d'imaginer un moment où on serait passé de la nature à l'histoire, de la non-société à la société. La nature de la nature humaine est d'être historique, car la nature de la nature humaine est d'être sociale. Il n'y a pas de nature humaine qui soit dissociable du fait même de la société. Et Ferguson évoque, selon le... une espèce de mythe si souvent repris au XVIIIe siècle, l'utopie méthodologique, soit, dit-il, une troupe d'enfants que l'on aurait laissé s'éduquer eux-mêmes en dehors de toute autre forme de société. Supposons des enfants que l'on mette dans un désert en les laissant se débrouiller dès leur plus jeune âge, qu'on les laisse se former tout seuls, sans instruction et sans guide, eh bien, si nous revenions 5 ans, 10 ans, 15 ans après, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas morts, bon, eh bien, qu'est-ce que nous verrions? Nous verrions les membres de cette petite société manger, dormir, aller en troupe, jouer ensemble, se faire un langage, se diviser, se quereller, se lier d'amitié, oublier pour les autres leur propre conservation. Donc, le lien social se forme spontanément, il n'y a pas d'opération spécifique qui puisse l'établir ou le fonder, il n'y a pas à instaurer ou à auto-instaurer la société, on est de toute façon dans la société, le lien social est sans préhistoire. Dire qu'il est sans préhistoire, ça veut dire qu'il est à la fois permanent et indispensable. Permanent, ça veut dire que aussi loin que l'on pourra aller dans l'histoire de l'humanité, on trouvera non seulement, bien sûr, la société, mais on trouvera la nature. C'est-à-dire que l'état de nature, cet état de nature que les philosophes allaient chercher dans la réalité ou le mythe d'un sauvage, cet état de nature, il n'y a pas à se déplacer par rapport à nous-mêmes. Nous pouvons le trouver ici même. En France, dit Ferguson, aussi bien qu'au Cap de Bonne-Espérance, on va trouver l'état de nature, puisque c'est l'état de nature qui veut que l'homme soit en état social. La société étudiée, même dans ses formes les plus complexes, même les plus développées, l'état de société à son épaisseur maximum, nous dira toujours ce qu'est l'état de nature, puisque l'état de nature veut que l'on vive en société. Donc, permanence de l'état de nature dans l'état de société, caractère indispensable aussi de l'état de société pour la nature, c'est-à-dire que l'état de nature ne peut jamais apparaître à l'état nu et simple. Ferguson dit, dans l'état sauvage comme dans l'état civilisé, on voit à chaque pas la marque de l'invention des hommes, et il ajoute cette phrase qui est caractéristique parce que, si vous voulez, elle est comme un... non pas un point d'origine, mais comme un point de signalisation de la possibilité théorique d'une anthropologie. Si le palais est loin de la nature, la cabane ne l'est pas moins. C'est-à-dire que la cabane, ce n'est pas l'expression naturelle et pré-sociale de quelque chose, où on n'est pas plus près de la nature avec une cabane qu'avec un palais. C'est simplement un autre... distribution, une autre forme de cette intrication nécessaire du social et du naturel, puisque le social fait partie du naturel et puisque le naturel est toujours véhiculé par le social. Donc, on a ce principe que notre société civile, que la société civile est ainsi une constante historico-naturelle pour l'humanité.